Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2,21 chinois, mon Dieu!
Recherche, scanner.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Je veux m'envoler dans le bleu de l'espace. Je veux tout ce que je n'ai pas.
C'est la planète Fluston dans la constellation de l'Ange.
Nous sommes sauvés.
Oh bah dis donc, mais c'est formidable.
Ah oui, c'est comme ça le satellite aujourd'hui.
Du pourtour méditerranéen aux plaines de Mongolie, la météo est la même pour tout le monde. Les prévisions annoncent un ciel couvert. Pour une fois, les cumulonimbus et autres nuages n'ont absolument rien à voir là-dedans. Les responsables sont des objets volants bien identifiés. Depuis 1957, environ 9000 satellites ont été placés en orbite terrestre. Les trois quarts sont morts, mais un peu plus de 2000 sont bien actifs avec différents usages scientifiques, météorologiques, télécommunications, navigation GPS, sans oublier les appareils à vocation militaire. Elon Musk, qu'on ne présente plus, le patron de Tesla et de SpaceX, projette d'en propulser 42 000 de plus, tout simplement. L'objectif du projet Starlink, c'est son nom, connecter toute la planète au haut débit pour que l'on puisse regarder nos vidéos de chats en HD en toutes circonstances. Car 4 milliards et 390 millions d'humains ont aujourd'hui accès à Internet. Ça veut dire que 3 milliards attendent encore leur tour. L'entrepreneur sud-africain a compris tout le potentiel de ce marché et ses concurrents les plus féroces aussi. Amazon et OneWeb ont chacun un projet de constellation artificielle dans les tiroirs. On parle cette fois de 648 et 3236 satellites. Oui, c'est précis. Tout ça pour dire qu'avant de faire un vœu quand vous apercevrez une étoile filante, regardez-y à deux fois. Car si c'était le seul problème posé par ces différents projets, on n'en ferait pas un podcast. Dans l'hypothèse où le réseau Starlink devient opérationnel, l'embouteillage autour de la Terre pourrait gêner le travail des télescopes, sans parler du risque de collision. Ceux qui ont vu le film Gravity savent de quoi je parle. La question se pose aussi de savoir quoi faire des satellites en panne ou hors d'usage. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que le gouvernement français se prépare à ce que les orbites spatiales deviennent une sorte de terrain de guerre, où les satellites s'espionneraient entre eux ou se livreraient carrément bataille. Voilà, on a posé un petit peu le décor. Notre pacificatrice du jour se nomme Sylvie Roy, elle est la spécialiste de l'espace et des océans au magazine Science et Avenir. Bonjour Sylvie.
Bonjour Romain.
Commençons simplement, si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le projet Starlink ?
Starlink, c'est un projet de connexion, comme tu l'as dit toi-même, pour fournir Internet à haut débit à toute la planète. Une espèce de réseau de maillage autour de la planète qui envoie et renvoie d'ailleurs le signal partout.
En haut débit ?
En haut débit.
Ok, très bien.
Et par ailleurs, il y a une autre raison.
Ah.
Une autre raison un peu moins sue, qui est que Elon Musk a construit des lanceurs réutilisables qui ne sont rentables que si on les utilise de manière poussée, bien soutenue.
Massive.
Massive, voilà. Donc Starlink pourrait fournir ce marché, ce gros marché nécessaire à ces lanceurs.
On parle quand même, c'est ça, de 42 000 satellites.
Alors, il y a 12 000 satellites qui sont approuvés par l'Union internationale des télécommunications.
L'UIT. Très
voilà.
Bien.
Et 30 000 demandes qui viennent d'être déposées et qui attendent d'être étudiées par cette organisation.
Parce qu'en gros, l'idée, c'est ça, c'est le terme qu'on a employé, c'est celui de constellation, c'est vraiment oui. De recouvrir.
Comme une toile d'araignée, une immense toile d'araignée, le web, des milliers de satellites.
Et alors, où en est ce projet de toile d'araignée satellitaire ?
Elon Musk a déjà placé 62 satellites autour de la Terre, deux en février 2018, et il vient d'en placer 60 d'un coup. En fait, puisqu'il y a, comme je le disais, des gros lanceurs en orbite basse.
Alors justement, la question des orbites basses, elle est assez importante parce que, en gros, ces satellites, c'est ça, ils sont que à 300 ou 350 km d'altitude.
Non, c'est entre 400 et 500.
Pardon.
Et les orbites basses, elles sont On parle jusqu'à 2000, en fait. Okay. Voilà, c'est vraiment... À 300 km, on a la... en gros, hein, on a la station spatiale. Et donc, ils sont au-dessus de la station spatiale internationale pour ne pas créer de collision.
Ah, justement, c'est un point qu'on évoquera un peu plus tard. Qu'est-ce que ça apporte? Parce que les satellites de télécommunication qui existent aujourd'hui, ils sont beaucoup, beaucoup plus hauts, c'est ça, hein?
Ils sont à 36 000 km, ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire. On en a depuis les années 90. L'intérêt d'être plus bas... Alors, les satellites durent moins longtemps, puisqu'ensuite, ils vont descendre, ils ont besoin d'être rehaussés sur leur atmosphère. La gravité de la Terre s'exerçant encore à cette altitude. En revanche, le temps de réponse est vraiment, vraiment diminué de beaucoup, puisqu'on parle de 30 millisecondes.
De latence, c'est ça ?
De latence, le temps de latence, contre 600 avec les orbites géostationnaires. Donc, ça apporte un confort de jeu, de rapidité dans le jeu vidéo ou dans la vidéoconférence, ce genre de choses.
Une araignée qui tisse patiemment sa toile autour du pauvre cocon que je suis.
Pauvre cocon que vous êtes.
Ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est qu'on a le projet Starlink donc de Elon Musk avec SpaceX, mais on a aussi Amazon, dont le grand patron se nomme Jeff Bezos, et OneWeb, dont on découvre qu'en fait, donc, c'est une entreprise américaine qui est soutenue par un groupe japonais nommé SoftBank. Ces deux gros groupes sont eux aussi sur le pied de guerre, avec différents projets qui n'ont pas grand-chose à voir.
OneWeb est celui qui a commencé plus tôt, sachant que par le passé, il y avait eu plein de constellations qui avaient été lancées sans jamais avoir abouti. Mais peut-être que la technologie désormais est mûre. En tout cas, OneWeb a construit une usine, c'est la première du genre, en Floride, pour construire des satellites à la chaîne.
Okay.
Donc, on industrialise le processus. Donc, elle est lancée, les satellites sont en train d'être produits. Il a un carnet de commandes pour les lancements. Donc, c'est quand même un peu sérieux, en fait, dans le fonctionnement. Sachant que le budget n'a pas été bouclé, ce qui explique qu'il n'a l'intention de lancer que 648 satellites contre les 900 qui étaient annoncés au départ.
Okay.
Alors, ces problèmes d'argent, Amazon, Jeff Bezos en l'occurrence, ne les a pas.
Non.
Mais il a un lanceur qui est beaucoup plus en retard que celui d'Elon Musk. Donc, il y va très doucement. C'est le rythme de Jeff Bezos. Il y va depuis le début. Très doucement sur le spatial, en faisant les choses, mais sans se mettre en concurrence ni dans une course avec Elon Musk.
Mais alors, attends, Amazon, c'est 3236 satellites, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça. Pour le projet que l'on appelle Kuiper.
Donc Kuiper.
Projet de constellation qui a le même but que celui d'Elon Musk.
Alors que sur OneWeb, ça veut dire justement une toile pour unifier tout.
Voilà, tout à fait. Et qui a déjà commencé à émettre auprès des écoles.
Okay.
De certaines écoles dans le monde.
Oui, donc à ce stade, c'est le projet d'Elon Musk et celui OneWeb qui sont peut-être les plus avancés à deux niveaux différents.
Oui, on peut le dire comme ça,
okay.
Tout à fait.
Et alors la question, c'est vrai que quand j'ai découvert le dossier et que j'ai lu 42 000 satellites, je me suis demandé, est-ce que c'est seulement réalisable et réaliste comme projet?
Alors réaliste, oui, puisque tu le disais toi-même tout à l'heure, c'est un marché en expansion, sachant qu'il y a 1 million de nouveaux utilisateurs d'Internet chaque jour. Donc c'est énorme, c'est un marché qui promet beaucoup. Donc réaliste, oui. Mmh. Réalisable. En ce qui concerne Musk, il a un très gros lanceur qui s'appelle Falcon Heavy, qui peut lancer 63 tonnes en orbite basse. Et il est en train de préparer, là, dans les prochaines semaines, le lancement de Starship, un très, très gros lanceur qui est destiné à faire les voyages habités vers la Lune et Mars, mais qui peut aussi mettre 150 tonnes en orbite basse. Il pourra lancer 600 satellites à la fois, et ce, 3 fois par semaine. Donc à ce rythme-là, on peut mettre 30 000 satellites assez rapidement.
Ah ouais, donc ça pourrait aller très très vite.
Ça pourrait aller très vite.
Et ce qui est assez étonnant avec ce projet, c'est qu'apparemment, il est aussi soutenu par l'armée américaine.
L'armée américaine vient de lui fournir une enveloppe de 28 millions de dollars, ce qui est beaucoup et pas tant que ça pour l'armée américaine, sachant que pour eux, c'est une opportunité. Ils ont déjà des contrats avec SpaceX, qui leur fait des lancements de satellites militaires. Donc pour eux, c'est aussi l'opportunité de tester des nouveaux instruments d'espionnage, d'observation à bas prix, finalement, qu'ils installeraient sur ces satellites. Ça pourrait faire un fabuleux réseau d'espionnage.
Mais cette question autour de la militarisation de ces satellites de communication, c'est assez gênant, non, en soi, non?
C'est en train de se passer de plus en plus.
Okay.
Nous avons un satellite espion russe qui s'amuse à aller voir les satellites. Il se déplace de manière contrôlée et il s'est approché récemment d'un satellite européen qu'il a fallu de toute urgence éteindre parce qu'il est en train d'écouter les télécommunications militaires.
Okay.
Donc c'est déjà le cas, la militarisation de l'espace est en cours, à tel point que Donald Trump a décidé de faire une Space Force et que l'armée française aussi veut se doter d'une armée spatiale pour se défendre justement de ces incursions de satellites espions, de satellites qui pourraient venir aussi avec un bras et méchamment nous désorbiter.
Vous pouvez voir ici l'étoile de la mort en orbite autour de la lune forestière d'Endor.
Partons du principe qu'on a 42 000 satellites qui viennent s'ajouter. Alors, on y ajoute aussi ceux de OneWeb, plus ceux de Amazon, éventuellement d'autres entreprises qui voudraient se lancer. Quel problème pourrait causer l'encombrement ou l'arrivée de tous ces satellites sur des orbites assez proches?
Déjà, un gros problème pour les astronomes. En mai 2019, quand les 60 premiers satellites de Starlink ont été lancés, ils ont imagé la réflexion du Soleil par tous les panneaux solaires de ces satellites qui se suivaient. Donc c'était une traînée de points lumineux dans le ciel qui se sont ensuite répartis sur les orbites basses. Donc ça pourrait créer des sortes de traînées lumineuses sur les observations longues et également en termes de radio, puisque ce sont des satellites qui émettent, qui ont des fréquences. Ces fréquences peuvent aussi interférer avec tous les satellites qui sont à 36 000 km, ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire. Donc cela pourrait créer des interférences dans leurs émissions, voire des pannes.
Carrément.
Carrément.
Et il y a aussi la question du trafic en quelque sorte, c'est-à-dire que les orbites basses pourraient se transformer en quelque sorte en périphériques parisiens ultra encombrés.
Tout à fait, cela va clairement poser des problèmes. En septembre dernier, cela a déjà provoqué un problème. Donc avec les 60 premiers satellites, puisque l'un d'entre eux se dirigeait droit vers un satellite européen qui s'appelle Aeolus, qui est un bijou technologique très très coûteux, qui risquait de périr en milieu de morceaux. Donc l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, a appelé SpaceX, mais la communication n'est pas passée, ils n'ont pas lu leur mail, ce qui fait que les Européens ont décidé de changer la route de leur propre satellite. Actuellement, il y a 3 manœuvres de ce type dans tous les pays pour pouvoir éviter les satellites qui arrivent, alors qu'on n'en est qu'à 2000 satellites en orbite.
Donc 3 manœuvres par jour, hein.
Par jour.
Ouais, quand même.
3 manœuvres par jour. Et il y a eu une collision en 2009 entre un satellite américain et un satellite russe qui était en panne, voilà, qui n'était plus actif. Donc ils se sont rentrés dedans, créant des centaines de débris. Donc c'est un sujet préoccupant. Actuellement, on pense qu'il y a une collision possible par décennie, mais cela risque de s'accélérer si on multiplie par 100 le nombre de satellites présents.
Et c'est des problèmes qui pourraient être encore pires avec la question des pannes que tu évoquais tout à l'heure.
Avec les pannes, sachant que déjà sur les 60 Starlink qui sont en orbite, il y en aurait 3 officiellement, mais sans doute 6 qui sont déjà en panne. Donc 6 sur 60, ça fait 10%. 10% de 42 000, ça fait beaucoup.
Ouais.
Sachant qu'on a actuellement 34 000 débris de plus de 10 cm en orbite à gérer déjà. Donc on risque de multiplier par 2 cette population de débris, entraînant encore plus de problèmes de collision, trafic, repérage de ces débris. Donc il va falloir, c'est peut-être de l'emploi qu'on va créer pour repérer ces débris.
Totalement. Mais toi, dans le dossier, t'évoquais aussi la question d'une sorte de remorqueur ou de dépanneuse de l'espace, le MEV-1, c'est ça, hein ?
Oui, qui a été développé par l'américain Northrop Grumman, qui va s'amarrer à un satellite de télécommunication qui s'appelle Intelsat 901, en orbite géostationnaire depuis 2001. Il est en panne. Il lui reste un tout petit peu de carburant, mais il est au bout de son...
Il
est en fin de vie. Donc ce qu'ils vont faire, c'est que le peu de carburant qui lui reste, ils vont l'utiliser pour le réélever sur ce qu'on appelle une orbite cimetière, où là, en fait, il n'y a que des satellites en panne. Donc le MEV-1 va le rejoindre à cet endroit-là. Il va s'accoler à lui et va lui fournir une nouvelle vie, puisqu'en fait, tous les équipements de vie, de propulsion, etc., sont dans le MEV-1. Et il va ensuite redescendre en orbite géostationnaire, où il lui offre, comme je disais, une seconde vie, ce qu'on n'a encore jamais fait.
Et pour des satellites qui sont déjà en orbite basse, est-ce qu'il n'y a pas la question tout simplement du fait qu'une fois qu'ils sont en panne, ils pourraient tomber? Parce que tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'avec la gravité, ils descendaient.
Ils brûlent dans l'atmosphère.
Okay.
En fait, donc, ce qu'on balaye, beaucoup de poussière noire que l'on balaye tous les jours, c'est de la poussière de satellite qui est entrée dans l'atmosphère. Donc effectivement, on étudie en orbite basse des tas de solutions avec des satellites qui auraient des bras pour désorbiter. Donc on leur dirait, tel satellite, vas-y, tu le pousses pour accélérer sa descente dans l'atmosphère. On a aussi des grappins, des filets, beaucoup de choses sont étudiées. Et Elon Musk, lui, envisage d'utiliser son Starship qui peut transporter 150 tonnes. Et comme c'est un avion qui est en orbite, il pourrait s'arrêter, mettre dans ses cales quelques satellites en panne et redescendre comme un avion avec ses déchets.
Oh, la fourrière, quoi.
Voilà.
Eh bien, ça y est, le satellite Septime est placé sur son orbite, nous n'avons plus qu'à le téléguider. Oui, et si ça rate, nous ne risquons rien.
Qui régule justement cette question d'équilibre, en gros, dans l'espace? Qui vient faire un petit peu le ménage? Qui dit, ok, attention, telles orbites, c'est des orbites cimetières, vous ne pouvez y déposer que des satellites hors d'usage? Enfin, qui vient?
Alors, sur les orbites, elles sont définies. Effectivement, elle a 36 000 km, c'est l'orbite géostationnaire. Les orbites basses, on fait un peu ce qu'on veut. et au-dessus de l'orbite géostationnaire, c'est des orbites cimetières, ça, à peu près tout le monde est d'accord. Ensuite, pour la propreté, chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est-à-dire, les Européens se sont eux-mêmes imposé une règle de conduite de tout désorbiter. Mmh. Ils essayent de faire de l'éducation, de l'imposer aux autres, mais sachant que 90% des satellites qui sont au-dessus de nos têtes sont russes, américains, chinois, je ne vois pas quel petit Européen irait dire à un militaire chinois, s'il vous plaît, soyez propre avec vos satellites. On n'a pas de moyen de pression. Il n'y a pas de régulation.
Ouais, donc il
n'y
a pas de régulation
question.
Dans l'espace. Dans l'espace, personne ne vous entend réguler. Quoi.
Voilà.
Très bien. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, on a un peu défloré le sujet, c'est la question de la militarisation. Est-ce qu'on pourrait s'approcher d'une vraie guerre, en quelque sorte, entre satellites dans les orbites basses et hautes de l'espace?
Je pense que c'est en train de se développer, à tel point qu'il y a certaines personnes en Europe qui aimeraient établir, au lieu de faire une station autour de la Lune,
okay.
Et au lieu d'avoir une station en orbite basse, de faire une station européenne en orbite géostationnaire qui servirait en quelque sorte de ferme à satellites. Ça veut dire qu'ils auraient un cheptel de satellites qu'ils enverraient avec des satellites espions. Donc ça serait comme une caserne plutôt qu'une ferme. Une caserne.
Donc à 36 000 km.
À 36 000 km. Alors vous pouvez surveiller ce que font les satellites, puisque maintenant, ce n'est pas que surveiller la Terre, c'est surveiller ce que font les autres satellites, s'ils se déplacent, s'ils viennent espionner. Et à les mettre un peu, il y aurait des gendarmes, des satellites gendarmes qui viendraient désorbiter, qui viendraient donner un petit coup de laser pour vous aveugler. Enfin voilà, ce genre de choses est étudié.
Ah oui, donc on en est
on
là.
On en est
même.
Déjà là.
Ouais, parce que tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'il y avait déjà des satellites. Je crois que c'est
un satellite russe. Ouais, il y a un satellite russe, j'ai oublié son nom.
Qui se déplace.
Il est observé par tout le monde parce qu'on s'en méfie. Mmh. Et comme je te disais, les Européens l'ont vu arriver et ont coupé toute communication tant que ce satellite était auprès de lui. Parce qu'en fait, c'est aussi un satellite qui doit avoir des grandes oreilles.
Lui, il a des grandes oreilles, mais il y en a un autre qui avait genre qui a un bras, quoi. C'est ça, je crois que c'est un satellite chinois.
Alors ça, c'est des satellites pour désorbiter, mais. Pour l'instant, ça n'a pas encore été prouvé, mais certains satellites sont en cours d'étude pour, en cas de guerre des satellites entre eux, quand il y aura un satellite espion dont on ne veut plus entendre parler, on irait le prendre avec ce bras qui le désorbiterait et on s'en débarrasserait comme ça.
On termine sur une note qui est quand même assez spéciale hein, pour ce qui nous attend dans l'espace. On peut en tout cas se dire qu'on a encore quelques années devant nous avant qu'il n'y ait plus assez d'espace dans l'espace. Avec Sylvie, on vous promet de vous tenir au courant des avancées d'Elon Musk et de ses petits copains, militaires ou pas. D'ailleurs, Sylvie, merci encore pour ton aide. Comme nos auditeurs ont pu le constater, tu es à la fois l'experte des profondeurs abyssales, spatiales, mais aussi océaniques au sein du magazine Science et Avenir. Si cet épisode était tellement bien qu'il vous a envoyé en orbite, attrapez quelques étoiles au passage et déposez-les sur la page iTunes de 6ème Science. Quand vous aurez touché Terre, vous pourrez aussi nous écrire à audio@20minutes.fr. À dans un mois, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. et merci de nous avoir écoutés.